Docteur Gospel et Mr Blues, Simon Martin, sur Radio Grand Ciel. Au sommaire de Dr Gospel et Mr Blues, aujourd'hui nous retrouvons Jacques Le Goff, grand amateur de jazz et guitariste. Il nous a ramené un CD pas banal du genre introuvable, un CD rare dans la collection Jazz in Paris. Il s'agit de Cordes et Larmes avec Kravik, Roussin et Varis. Ambiance jazz latino pour ouvrir ce Docteur Gospel et Mr Blues avec l'album Cordes et Larmes, un album signé Kravik, Roussin et Francis Varis à l'accordéon. Cette émission, c'est en compagnie de Jacques Le Goff que nous allons la passer. Bonjour Jacques.
Bonjour Simon.
Alors vous avez ramené un CD plutôt rare avec des musiciens qui ne sont pas pas très connues du grand public, mais qui vous tiennent particulièrement à cœur.
Ah oui, absolument. Alors, pas connues du grand public, mais connues des musiciens et des amateurs assez pointus de ce genre de musique. Parce que Dominique Kravik, en particulier, qui est originaire de Dreux, d'ailleurs, comme Didier Roussin, a fait une carrière, bonne carrière de musicien. Il a travaillé avec Henri Salvador en particulier, avec un certain nombre de chanteurs aussi. Et il a mené une carrière de guitariste, soliste aussi. Mais c'est moins connu du grand public parce que bon, il n'a pas cherché non plus la gloire.
C'est ce qu'on appelait un sideman, quoi.
Oui, c'est un sideman, mais bourré de talent. Hein.
Et là, c'est un album en tant que leader, hein, avec Roussin et Francis Varis. Alors, Francis Varis, c'est à l'accordéon.
Oui, c'est un accordéoniste. Précisons que c'est accordéon-piano. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un côté, le côté droit, ce sont des touches piano, et de l'autre côté, ce sont des touches boutons, comme les accordéons-boutons. Donc, la virtuosité ne peut pas être la même. Et ça, c'est plus swingant finalement, l'accordéon piano, parce qu'on ne peut pas se laisser aller à des traits de virtuosité gratuites, hein, comme on le fait dans le Musette par exemple.
Et Didier Roussin, que là nous n'avons pas entendu sur cette chanson, mais qui fait partie du premier CD de cet album, je le répète, Cordes et Larmes, dans la collection, célèbre collection s'il en est, Jazz in Paris. Oui. Alors, vous nous l'avez dit, ils viennent de Dreux, et oui. C'est avant tout un album entre copains, non ?
Oui, c'est un album entre amis. Hein. C'est Dominique et Didier viennent de Dreux. Je ne pense pas Varis, ils l'ont connu. Ils l'ont connu en tant que musicien, mais il n'est pas originaire de Dreux. Torchinski, par exemple, par contre, est originaire de Dreux aussi, je crois. Mais en ce qui concerne Didier Roussin, bon, c'était un excellent musicien, mais il était plutôt centré sur la composition et l'accompagnement. Hein. C'était quelqu'un qui donnait des cours de guitare à Dreux, et quand il a rencontré Dominique, le courant est passé, ils ont beaucoup travaillé ensemble, et malheureusement, Didier nous a quittés dans les années 90. Il est mort d'un cancer du cerveau à Dreux. Mais c'était un très très bon musicien. Moi, je l'ai personnellement.
Oui, vous les avez connus.
Oui, je les ai connus, je les ai fréquentés, puisque avec Dominique, on a partagé une scène.
Vous avez fait le bœuf avec Dominique.
Voilà. Et on s'est revus après. Quoi. Il est même venu dîner à la maison. Il chantait des chansons corses avec une drôlerie incroyable, parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Et Didier, lui, c'est aussi. Il avait un tempérament de chercheur et il a écrit un énorme bouquin sur l'accordéon qui fait autorité. Hein. C'est une masse d'informations sur l'histoire de l'accordéon. On peut le trouver encore sur Amazon d'ailleurs, ou encore il y en a un exemplaire à la médiathèque de Chartres de son livre. Voilà.
Et bien, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de cet album, un extrait qui s'appelle « Cordes et larmes ».
Thank you.
C'était Cordes et Larmes, extrait de l'album du même nom, Cordes et Larmes, dans la collection Jazz in Paris. Album signé Kravik, Roussin et Varis. Et là, au violon, c'était Dominique Pifarelli, Jacques Le Goff.
Oui, alors Dominique Pifarelli, c'est un violoniste bon, qui a connu une certaine notoriété quand même, qui a un style qui ressemble un peu à ce que faisait à l'époque Didier Lockwood. Et c'est lui d'ailleurs qui a composé le morceau, hein, Cordes et Lames. Hein. C'était d'ailleurs je crois que l'emblème de leur petite formation. Hein. Et là, on sent très bien que c'est l'époque aussi où la bossa nova avait une très grande influence sur le jazz.
Alors l'album a été enregistré en 83.
Oui, il faut préciser, il a été enregistré en 83 quand même, hein, ce qui ne nous rajeunit pas. Et alors, il y avait deux autres musiciens dont on peut parler brièvement. Il y a Yves Torchinski, qui est contrebassiste et qui était d'origine drouaise, je crois, aussi. Et puis Jean-Claude Jouy, qui est un batteur, bon, qui a connu une certaine notoriété aussi. Ce sont de très très bons musiciens. Et surtout, il y a une forme d'unité dans tout cela qui est tout à fait intéressante. Et je voudrais faire remarquer que le style de guitare de Dominique Kravik, il ne force pas sur la rondeur du son. Il a un son, je ne dis pas grêle, mais très très fin, comme un guitariste auquel je pense, qui est Jimmy Rane, par exemple, a un son un peu de ce style-là, alors que Tal Farlow a un son plus gros. Voilà.
Alors, vous les avez connus dans les années 60-70. Pouvez-vous nous dire comment on pouvait écouter du jazz en France à cette époque-là?
Alors, y avait plusieurs façons de le faire. Hein. On pouvait acheter des disques déjà, parce qu'il y avait les 33 tours, les 45.
Donc, on trouvait tout, des imports des
oui,
États-Unis.
Il
y avait déjà des labels français.
Oui, bien sûr. Disons que il y avait beaucoup de disques américains. C'était, je crois, que la marque Blue Note hein, qui faisait.
Entre autres,
oui. Oui. Mais il y avait toute une activité jazzistique assez importante. Hein. Il y avait des grands orchestres. Il y avait déjà des orchestres de Claude Bolling, par exemple. Il y avait des gens comme ça. Il y avait plein de musiciens. Aussi des musiciens qui jouaient, des musiciens de fosse du Châtelet, enfin, de salles de spectacle qui avaient un orchestre pour accompagner des chanteurs ou des spectacles musicaux. Et il y avait dans les fosses d'orchestre plein de musiciens de jazz de renom, hein, comme Charles Verstraat, son frère Fernand, et puis aussi un saxophoniste que j'avais vu, moi, c'est une parenthèse, hein, que j'avais vu à Bonneval avec l'orchestre Jacques Ellian, qui faisait la musique de danse aussi. Hein. Et il y avait une petite formation à l'intérieur qui jouait de temps en temps. Et il y avait un musicien dont il faudra qu'on reparle plus tard dans une autre émission qui s'appelait, parce qu'il est décédé il y a quelques années, Bob Garcia, qui est un saxophoniste remarquable, dont personne ne connaît plus le nom, parce qu'il a fait une carrière aussi un petit peu de musicien d'ensemble, hein, dans des grandes formations comme il y avait à l'époque.
Alors voilà. J'imagine que les musiciens en France étaient à l'écoute forcément de ce qui se passait aux États-Unis, où le jazz était encore en train de se créer avec le hard bop et puis ensuite le free jazz. Est-ce qu'on courait après le jazz américain, ou alors est-ce qu'on avait déjà notre propre façon de faire du jazz?
Je crois qu'on a eu assez tôt d'ailleurs notre propre façon d'assimiler le jazz américain et de renvoyer dans les oreilles des auditeurs ou des spectateurs un jazz qui avait une couleur plus personnelle. C'est-à-dire qu'on a commencé aussi à avoir des musiciens qui créaient leurs propres thèmes. C'est-à-dire on se dégageait des standards, et là ces disques en témoignent, il y a très peu de standards ou de musique venant des États-Unis. On a eu cette, et ça s'est ensuite un peu généralisé. Alors il y a plusieurs explications à ça. D'abord, quand on crée son propre thème, on y met de soi-même et on se retrouve mieux pour improviser. Et puis il y a aussi l'aspect financier, c'est-à-dire que en termes de droits d'auteur, les interprètes qui composent, qui composent et qui jouent leurs propres œuvres, ben, on, la totalité, une grande partie des droits d'auteur leur reviennent. Donc il y avait cet aspect-là aussi, parce que les Américains drainaient énormément d'argent par le biais du jazz exprimé en France.
Et ils venaient aussi, les Américains, les grands musiciens américains venaient aussi énormément en France, même certains se sont installés. Donc il y avait, on était directement à la source, c'est ça que je veux dire, quoi.
Ah ben bien sûr. Alors il y avait, bon, les grands anciens, il y a eu Bechet, il y avait Bill Coleman aussi, qui est un type absolument charmant, qui est à l'origine du festival de jazz de Marcillac, hein, avec le saxophoniste français.
Oui, je parlais
de Guy Lafitte. Mais il y avait des musiciens américains qui venaient faire des concerts. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque, pendant quelques années, il y avait le jazz de philharmonique. Alors c'était Norman Granz, je crois, un Américain, qui rassemblait un certain nombre de musiciens qui faisaient une tournée européenne. Alors il y avait un petit peu de tout là-dedans, il y avait de très bons, puis il y avait des choses moins intéressantes, mais ça nous permettait de voir en direct Ella Fitzgerald, on voyait Dizzy Gillespie, on voyait... Alors des gens comme Gillespie, c'était des habitués du jazz à Juvin-les-Pins. Il y avait aussi des festivals de jazz en France, ou Antibes, Juvin-les-Pins, où on voyait en vrai les Américains qui aimaient bien la France, parce que les musiciens qui se sont installés en France... s'est trouvé bien en France parce qu'il n'y avait pas l'espèce d'apartheid.
Bien sûr. Hein. Ils étaient beaucoup plus respectés et puis admirés.
Et même admirés. Et donc, souvent d'ailleurs, ils se mariaient avec des Françaises. Hein, ça a été le cas de Bill Coleman.
Eh bien, on va écouter un troisième extrait de cet album. Eh bien, j'ai envie de dire un extrait plutôt bien français dans son nom, Sweet Vals.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une composition de Francis Varis. Thank you.
Magnifique sweet valse, plein de poésie, extrait de l'album Cordes et Larmes, album signé Kravik, Roussin et Varis, dans la collection Jazz in Paris. Jacques Le Goff, difficile de devenir célèbre en genre du jazz dans les années 70-80 en France.
Bah, c'est-à-dire que, oui, c'est relativement peu porteur.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, ce qui est porteur, c'est la variété, quoi. C'est ce qui rapporte de l'argent. C'est aussi pour ça que pas mal de musiciens de jazz jouent avec des chanteurs.
Jacques Le Goff, d'ailleurs, des musiciens comme Kravik étaient profs aussi, sont encore profs de conservatoire.
Oui, alors je pense qu'il l'est encore. Enfin, il a enseigné
en
conservatoire, oui. Il a une formation, je pense qu'il a dû... faire une formation universitaire, Vincennes.
Alors, dans les années 80, le jazz reprend un peu de vigueur en France, mm-hmm. m'avez-vous dit, j'imagine grâce au festival, entre autres.
Oui, bien sûr, il y avait une vie jazzistique, en particulier dans de nombreux clubs. Il y avait beaucoup de clubs de jazz à Paris, en particulier, il n'y en a presque plus maintenant, ça... Ils sont morts peu à peu, parce que il y a des aspects financiers importants. Et les musiciens, c'est pas dans les clubs qui gagnaient beaucoup d'argent, parce que les cachets n'ont jamais été mirobolants. Mais c'était un moyen aussi de se faire connaître d'un plus large public. On avait l'occasion de voir beaucoup de musiciens. On voit encore des musiciens, pas mal de musiciens de jazz. Sur Paris, mais je pense qu'il y a moins d'occasions d'en écouter qu'autrefois.
Alors, quand on était à Chartres ou à Dreux, comme vous l'étiez, Jacques Le Goff, où allait-on écouter du jazz dans les années 80 à Paris,
on allait à Paris.
Alors, ouais. À Chartres, il n'y avait pas Dreux. Il y avait quand même des concerts. Vous m'avez dit avoir vu des grosses pointures à Chartres.
Hein, oui, bien sûr. Au théâtre. Mais c'était pas. Il n'y avait pas ces programmations de. Aussi importante qu'on a vu après, hein. Mais on voyait quand même quelques musiciens dedans. Moi, j'ai vu plusieurs fois Stéphane Grappelli au théâtre et puis dans un autre, une salle de spectacle qui était un cinéma qui a disparu là, depuis un certain nombre d'années déjà. J'avais vu aussi Bill Coleman. J'avais vu des gens comme ça et puis des musiciens plus jeunes. Mais on allait à Paris, on allait voir. On a le spectacle de Paris.
Alors, ce qui était très recherché chez des musiciens de grande qualité, comme nous venons d'entendre, Kravik, Roussin et Varis, c'était qu'en fait, ils faisaient du jazz, mais ils pouvaient accompagner n'importe qui.
Ah oui, oui, ils étaient assez polyvalents quand même, heureusement pour eux d'ailleurs. Mais enfin, ces gens-là, ils ont gardé quand même cette fidélité au jazz. Ils ont formé plusieurs orchestres. Enfin, ils ont eu une période très active. Alors, ces musiciens-là ont fait une carrière très très honorable. Moi, je voudrais plus tard encore rendre hommage à un certain nombre de musiciens de leur genre dont on parle peu et qui font l'ossature réelle de la musique de jazz. On confond souvent le jazz et quelques vedettes dont on entend toujours les noms à la radio, à la télévision, mais il y en a bien d'autres qui travaillent dans l'ombre et qui sont d'excellents musiciens.
On va se quitter, Jacques Le Goff, sur quelques notes de Trois temps pour Laurent, extrait de l'album Cordes et Larmes, magnifique album, signé Kravik, Roussin et Francis Varis, qui étaient des petits gars du coin. Merci, voilà. Jacques Le Goff.
Eh bien, c'est moi qui te remercie. Thank you.